partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Fernand Guillot.
Bonjour. Pour découvrir les poètes de l'île Maurice, je vous propose d'abord une rencontre portrait d'un des plus grands, des plus célèbres, Robert Edward Hart, le prince des poètes de l'île Maurice. Permettez-moi d'appeler à mon aide, en exergue de cette causerie, quelques grandes figures littéraires du Paris de l'entre-deux-guerres et de les citer. Les 13 de l'intransigeant. Les vers de Robert Edward Hart possèdent la plus belle des qualités. Ils sont musicaux. Maurice Martin Dugard, dans les Nouvelles littéraires, le poète de Maurice, c'est Robert Edward Hart. Mystique, musicien, avide de mythes, il attend des dieux nouveaux, il leur prépare une retraite dans son univers. Et le duc de Beauffremont, un des 13 de l'intransigeant, qu'il avait pris en amitié lors d'un de ses séjours en France. Prodigieusement doué, mélancolique tour à tour et ardent, rêveur et passionné, s'élevant jusqu'aux spéculations les plus hautes. Et enfin, Georges Duhamel de l'Académie française, qui avait envoyé ce message à la mort du poète en 1954. C'est avec douleur que j'ai appris la mort de Robert Edward Hart, grand poète et homme charmant. J'ai fait un séjour à l'île Maurice en 1948. Je suis allé passer une soirée chez lui, dans cette retraite marine à la fois délicieuse et austère, où il vivait. Il a été un mainteneur de la langue française et de la pensée française dans l'île de la Fidélité. Je pensais souvent à lui avec affection, j'y penserai maintenant avec affection et regret. Qui était Robert Edward Hart et pourquoi l'île de la Fidélité? L'île Maurice n'est plus une inconnue en France. La presse et la télévision en parlent sans cesse. Le tourisme y connaît un prodigieux essor. Les plages, la mer, turquoise, transparente. Les hôtels de très grand luxe, les célébrités. La gentillesse des Mauriciens. Voilà l'image qu'on s'en fait. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a une histoire qui mérite d'être contée. Avant de vous la brosser dans ses grandes lignes, je vais laisser le poète vous en dire quelques mots. Ce poème s'appelle « Palmeraie ».
La mer retentissante et les plages sonores dialoguent comme l'amour et l'amitié autour de la forêt vaste où les cocotiers tamisent la lumière entre leurs palmes d'or. Et voici qu'enivrés par l'audace de leur vol, de blanches mouettes raient d'argent l'espace. Entre l'eau déferlante et la forêt muette, entre ces voix du ciel et ces voix de la terre, qu'ont les oiseaux et les insectes, l'heure passe et les cocotiers s'épanouissent. Ils écoutent monter leur sève et descendre la coulée du soleil couleur de miel et d'ambre, au long de leurs colonnes et de leurs feuilles lisses. Ineffable stupeur de la vie en sa force, qui mûrit saintement dans la palme et l'écorce. Avec d'obscurs frissons et de lentes délices, ils aspirent la vie aux limbes de la terre, puis aux vides éblouis du ciel. Et le mystère de leur communion double est si manifeste que les grands cocotiers demeurent sans un geste parmi l'air immobile, et que la palmeraie, ainsi qu'un temple où vit la déesse incrée, révèle une présence invisible et sacrée.
Les Arabes qui naviguaient le long des côtes africaines la connaissaient depuis le début du XVIe siècle. Ils l'avaient baptisée Dinarobine. Elle commença à intéresser les puissances maritimes quand s'engagèrent un peu plus tard les grandes aventures d'Asie. C'est qu'elle est merveilleusement située, à peu près à mi-chemin entre le Cap de Bonne-Espérance et l'Inde, et plus que son île sœur, autrefois l'île Bourbon, aujourd'hui de la Réunion, elle offrait des rades abritées. Le 17 septembre 1598, l'amiral hollandais Van Warwijk y accosta et la nomma Mauritius en l'honneur du prince Maurice de Nassau. Ils y établirent une base et tentèrent y fonder une colonie, mais quittèrent définitivement l'île en 1710. Après un séjour d'un peu plus d'un siècle, marqué d'épidémies, de sécheresses, de violents cyclones et de cultures dévastées par les rats. 5 ans plus tard, en 1715, Guillaume Dufresne d'Arcel y plante le drapeau Fleur de Lys et la renomme Île-de-France, en l'honneur du jeune roi Louis XV. L'île se peuple d'hommes et de femmes de France, principalement de Normandie et de Bretagne, dont on peut se demander de quel espoir ou de quel désespoir ils étaient animés, et d'esclaves venus d'Afrique et de Madagascar, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas venus de leur plein gré. Toujours est-il que c'est plutôt chaos et indiscipline, jusqu'en 1735, quand la Compagnie des Indes nomme Mahé de la Bourdonnais gouverneur. Cet homme d'une intelligence et d'une volonté exceptionnelles va se fixer des objectifs prodigieusement ambitieux. Il construit l'hôtel du gouvernement date de son temps. Il crée des infrastructures d'adduction d'eau, des docks, des dépôts en pierre qui existent encore, des sucreries, des routes. Il installe un embryon de vie mondaine d'un certain raffinement. Il donne naissance à un début de cité, encadre une population profondément indisciplinée et en reste confondu par tout ce qu'il a pu réaliser en 5 ans. Au fil des années, l'activité maritime de l'océan Indien devient de plus en plus importante et la rivalité entre nations européennes de plus en plus exacerbée. La position de l'île conduit la France tout naturellement à s'en servir pour harceler les navires des puissances ennemies. Surcouf et Suffren y installent leur base. En 1810, les Anglais décident de prendre l'île. Ils arrivent par le sud, et dans la baie du Grand Port, les flottes anglaises et françaises se livrent un combat acharné. Dans un espace très restreint, les vaisseaux manœuvrent difficilement et s'échouent sur les hauts fonds. Les deux capitaines, Willoughby et Dupéré, sont blessés au début du combat et emmenés à terre dans la même maison, qui est aujourd'hui musée de la marine. Une seule frégate anglaise parvient à s'échapper et prend le large. Cette victoire française, la bataille de l'île de la Passe, est inscrite à l'Arc de Triomphe. Quelques mois plus tard, les Anglais débarquaient dans le nord, au Cap Malheureux, et se rendaient maîtres de la colonie. Curieusement et généreusement, ils s'engageaient à ce que les coutumes, les lois, les religions et les biens des habitants soient préservés. L'Angleterre respectera ses engagements jusqu'à l'indépendance. L'Angleterre respectera ses engagements jusqu'à l'indépendance de Maurice, 158 ans plus tard, en 1968. On a continué à y parler le français. C'est donc l'île de la fidélité. C'est aussi l'île de toutes les fidélités. Les Mauriciens sont héritiers des civilisations françaises, anglaises, indiennes, tamiles, africaines, chinoises. C'est un pays d'églises, de temples, de mosquées. Et si chaque Mauricien se sent appartenir principalement à la civilisation dont il est issu, il a subi, souvent sans s'en rendre compte, les influences de toutes les autres. Et je crois pouvoir affirmer qu'il se sent avant tout mauricien. C'est ce qui explique l'éclectisme de Robert Edward Hart, dont nous allons parler maintenant, et je dirais presque la violence de son attachement à son île. Il y voit le jour le 17 août 1891 à Port-Louis. On le met à l'école, il s'y ennuie tellement que ses parents acceptent de l'en sortir quand il a 8 ans. Il semblerait qu'il n'ira plus jamais qu'à l'école de la vie, de ses lectures, de ses rêveries. Comme presque tous les enfants de Maurice, il est élevé par une vieille bonne, généralement d'origine africaine ou malgache. Qu'on appelle là-bas une nénène. Je laisse la parole à Robert Edward Hart.
Ma vieille nénène me berçait de légendes et entretenait en plein midi d'insolites conversations avec un spectre. dans les hautes herbes du Tranquebar, sur la petite montagne et les autres collines qui font à Port-Louis un diadème royal, j'entendais les esprits des hauts lieux se chuchoter dans la brise des paroles incompréhensibles pour moi, mais intenses jusqu'à l'anxiété. Et si c'est à 20 ans que je devais écrire mes premières strophes, c'est en pleine enfance que, découvrant le royaume de poésie, j'écoutais chanter le poème de la rafale sur la montagne. Si je devais assigner une origine à mon amour de la poésie, je n'hésiterais pas à dire qu'il est né du paysage mauricien et d'une féerie enfantine intérieure.
Toute son œuvre sera marquée de nostalgie et d'une certaine angoisse. Nostalgie de l'enfance, angoisse à l'idée de la mort. C'est le moment de citer un de ses poèmes les plus délicieusement mélancoliques.
Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. C'est parmi les jardins, à la fin des dimanches, dans le soir qui descend des manguiers estompés, la ronde des enfants dansant en robe blanche. L'air est vibrant de joie, et des beaux fruits trop mûrs s'exhale une senteur qui monte aux jeunes têtes. Et les enfants, heureux de tout un jour de fête, tournent éperdument à l'ombre des hauts murs. Les arbres pleins d'oiseaux chuchotent dans la brise, et l'angélus qui tinte à la lointaine église met un peu de ferveur dans l'air plein de chansons. Le crépuscule meurt avec de longs frissons. Le soir vient, malgré tout l'on fredonne et l'on danse, nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Dans l'ombre qui descend des manguiers estompés, je pense au temps passé de ma joyeuse enfance. Je revois les jardins où jadis j'ai chanté la même vieille ronde au milieu des fleurs blanches. Il y avait autant de moineaux sur les branches, c'étaient les mêmes soirs de paisible gaieté. Ils n'ont pas dû changer mes jardins d'autrefois. Et d'autres fleurs blanches, remplaçant les premières, doivent fleurir encore, et les mêmes lierres doivent grimper toujours aux varangues de bois. D'autres enfants sans doute y chantent à cette heure, tandis que je ressonge au passé qui m'effleure. Lys pâle qui défaille et meurt entre mes doigts. Et que des souvenirs me viennent en cohorte. Oh, les jardins fleuris, les jardins d'autrefois. Mais c'est fini, je n'irai plus au bois. Les lauriers sont coupés et les roses sont mortes.
Ces vers ont pour moi un puissant pouvoir d'évocation. Ils me remettent devant les yeux ce vieux Port-Louis qui avait quelque chose de la Nouvelle-Orléans, avec ses maisons coloniales en bois, ses cours entourées de murs, ses grilles ouvragées, ses vieux manguiers et tamariniers, et le chant d'un petit jet d'eau dans le bassin. Elle donnait l'impression d'être fraîche même par les canicules. Le vieux carré de la Nouvelle-Orléans est toujours là, mais il ne reste presque plus rien du vieux Port-Louis, qui était pour partie relique d'une ville coloniale à la française et pour partie un port à l'orientale qu'aurait aimé Somerset Maugham. Je viens moi-même d'une famille originaire d'Aix-en-Provence, établie à Maurice depuis 200 ans. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Robert Edouard était un ami de mes parents et venait de temps en temps dîner et passer la nuit. Il habitait à l'autre bout de l'île et n'avait pas de voiture. J'ai encore un pauvre petit fascicule de poèmes qu'il nous avait envoyé après un séjour avec la dédicace suivante. Pour Jean-Claude Anthelme et ses petits frères, avec un affectueux merci pour leur parfaite gentillesse. Robert, la nef, Souillac, le 25 mars 1950. C'est probablement vers cette date que je suis allé passer la première de 2 ou 3 journées chez lui à Souillac. J'avais 17 ans. Nous habitions à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseaux les uns des autres, mais les trains de Maurice ne connaissait pas les vols d'oiseaux. J'en prenais un de chez moi jusqu'à Curepipe, où je changeais jusqu'à Rosebel, où je changeais jusqu'à Souillac, minuscule village sur la côte sud. Le petit train, tirant ses 2 ou 3 wagons, s'en aller sans se presser à travers hameaux, bois et champs de canne, avec force coups de sifflet auxquels faisaient écho ceux de chefs de gare sans passagers. Nous devions bien prendre 1 heure et demie, plus au retour car les côtes étaient longues. De la gare, j'allais chez lui par un chemin de sable bordé de fils à eau, à travers lesquels on voyait quelques habitations couvertes de chaumes, et la mer, plus bleue et plus sauvage dans le sud. Au bout du village, un petit chemin débouchait sur sa maison, plate, rectangulaire, toute de corail ambré, bleuté et blanc éclatant. Il était devant la porte, fumant son éternelle cigarette, il m'attendait. Il était grand, massif, habillé n'importe comment d'une veste et d'un pantalon de toile. Il avait un visage d'empereur romain, la voix grave du grand fumeur et des mains très longues, très expressives. Il était patricien avec cette aisance suprême de vous mettre immédiatement à l'aise. Il me donnait l'impression que le gosse que j'étais lui faisait un grand honneur en lui rendant visite. Près de 60 ans ont passé. Et si je ne me souviens plus de notre conversation, je sais encore que j'étais ébloui. Il me parlait de tout, comme si nous étions de vieux amis, d'un même niveau de culture et d'expérience de la vie. Je reprenais mon train après le déjeuner, servi par le fidèle Jean, et mes rêveries du retour étaient plus intelligentes que celles du matin. Cette maison est légendaire à Maurice. La poésie en général n'enrichit guère son homme, encore moins à Maurice qu'ailleurs. Et après un cyclone particulièrement meurtrier en 1945, qui avait détruit son ancienne chaumière, ses amis lui avaient offert cette maison en dur qu'il avait baptisée la Nef, qu'il aimait et où il est mort. Elle était spartiate, mais elle avait une âme. Après être tombée en ruine, elle vient d'être reconstruite à l'identique, grâce, je crois, à une subvention de l'État, et elle est devenue son musée. Elle lui a inspiré ce poème.
« De la première pierre aux fleurs sur mon pupitre, cette demeure est l'offrande de l'altruisme qui dédia au charme de la poésie ce toit que je consacre à la noble amitié. Malgré la mer tumultueuse, le silence de la pensée domine le logis où passe le vent austral, chargé d'embrun et d'aventure, et l'appel d'un courlis évoque tout l'espace. Toi qui passes ici, sache qu'il est encore des lieux où le cœur parle et progresse l'étude, des lieux où le poète, ému de gratitude, ne ressent plus la torpeur de la solitude, car ici sont présents à toute heure en esprit les donateurs qui m'ont voué cette demeure. Et leur voix, sur le seuil, est musique à mon cœur. »
Curieusement, 30 ans plus tôt, lors d'un voyage à Madagascar, fasciné par les croyances de ses habitants, le culte des ancêtres et les rites funéraires, il avait écrit plusieurs très beaux poèmes, dont un qui a quelque chose de prémonitoire. Il s'intitule « Mélopée » et a figuré un temps dans des manuels scolaires en France.
« Si j'ai fait de granit ma maison pour la mort, je n'ai fait qu'en raffia la maison de ma vie. Je vois passer les jours sans désir ni remords. Dans ma chair sans orgueil, mon âme est assouvie. J'ai du riz, un toit sûr, un lambeau qui me vêt. C'est là ce que pour moi mon vieux père rêvait. Toutefois, il me faut, quand viendra l'agonie, qu'on enroule mon corps dans la toile cramoisie et qu'on garde à mes os le culte des aïeux. Ainsi trépassé, que l'on pleure ou l'on rit, je dormirai content, sans désir ni remords. Je n'ai fait qu'en raffia la maison de ma vie, mais j'ai fait de granit la maison pour ma mort. »
Je ne sais pas pourquoi il avait choisi de vivre dans ce coin de l'île, très isolé en ce temps-là. Je crois bien qu'il n'avait ni électricité, ni téléphone. Il vivait seul, face à la mer, sur sa falaise souvent fouettée par les grands vents et les embruns, avec ses livres et ses pensées. Il était profondément mystique, fasciné par les religions, surtout orientales, et les mythes, notamment celui d'une Lémurie, peuplée en des temps préhistoriques de géants qui auraient ciselé les montagnes de Maurice. Il avait traduit des poèmes de Rabindranath Tagore en français, beaucoup étudié, réfléchi, médité. Le ton de sa conversation, de ses causeries, était très différent de celui de ses poèmes. Il se montrait enjoué, heureux de partager, d'échanger. Quelques-uns de ses écrits seulement reflètent une certaine joie de vivre, comme ce poème que je vais vous présenter, un de ses plus connus, « La danse devant la mer ».
Dansez dans la clarté, jeunes filles harmonieuses. La mer avec vous danse en déferlant au bord des grèves. Et danse avec vous vos chevelures lumineuses dans le matin léger dont l'azur efface les rêves. Dansez dans la clarté, jeunes filles harmonieuses. Vous êtes à la fois l'enfant d'hier, la mère sûre de demain. Et vos mains savent encore bercer, pieuse, la poupée. Et vos flancs porteront la race future. Dansez, je vous admire, je vous aime et je vous chante, porteuse de mon rythme épars dans votre théorie, guirlande de chair, fruits humains, fresques vivantes, cœur de muse, dansez, cortège d'or, troupe fleurie. Et lorsque votre ronde enfin se sera dédouée parmi les filaos et le bois bruissant de palmes, la mer viendra baiser à l'heure des vagues plus calmes l'empreinte de vos pas au creux des sables oubliés.
Même dans ces poèmes de lumière, on devine un nuage invisible juste en dessous de l'horizon. Comme disait je ne sais plus quel auteur anglais, le poète ne voit pas les choses comme elles sont, il les voit telles qu'il est lui-même. Ses relations avec Malcolm de Chazal, l'écrivain mauricien à la personnalité et au génie si singulier, étaient quelquefois compliquées. Art et lui étaient amis et s'admiraient mutuellement, tout en se brouillant régulièrement et en s'envoyant des piques. Art disait de Chazal que son œuvre était une poubelle dans laquelle on trouvait des diamants, et Chazal disait qu'il donnerait toute l'œuvre de Art pour quelques pages d'un autre écrivain mauricien beaucoup moins célèbre. Pourtant, c'est Chazal qui a écrit les lignes les plus émouvantes que je connaisse sur Art. En 1956, 2 ans après la mort de Art, dans une lettre ouverte à un ministre, il s'indignait de l'indigence dans laquelle vivaient la plupart des écrivains mauriciens et demandait que l'État leur accorde de l'aide. Il parlait de Art qui, comme je l'ai dit, avait vécu dans une pauvreté extrême. Je cite.
« J'aimerais parler un moment de Robert Edward Art, non quant à son œuvre, mais quant à sa vie. Sa distinction, son impeccable allure, sa classe, seuls on l'ont sauvé d'avoir l'apparence d'un miséreux. Quand Georges Duhamel vint à Maurice, Art se rendit au banquet qui se donna au Plaza de Rose Hill. Le poète n'avait ni habit ni smoking, il était revêtu d'un affreux complet noirci, le seul qu'il posséda. Assis près de moi, je l'observai longuement. Son visage était empreint d'un détachement, d'un souverain mépris. Il était ailleurs. Il humait un jardin au-delà du parterre. Et cela me plaisait. Art marchait dans la foule endiamantée, poudrée, caquetante en habit, parmi les rires faux et les robes décolletées comme un prince, comme un dieu. Et je compris pourquoi Louis XIV à Versailles était le plus simplement mis de sa cour. Art a vécu en prince miséreux. Lorsque quelqu'un venait chez lui, les rôles étaient renversés, et c'est l'homme en carpas et short-chemise-paletot qui donnait la note juste. On était reçu par un grand seigneur.
Au fil des années, Art avait apprivoisé la mort. Je ne sais pas s'il était devenu une amie, mais il la traitait avec familiarité. Elle vivait avec lui. Il en parle dans de très nombreux poèmes, dont un très long, intitulé « Le tombeau vivant ». En voici quelques extraits.
Que mon tombeau soit familier aux jeux d'enfants, que des eaux j'y recueille l'eau de la pluie à l'intention des oiseaux, qu'une ombre criblée de clarté y descende d'un petit arbre et danse sur la pierre nue au rythme du vent, que la mer me rende un peu de mon amour dans sa vaste rumeur de conque, qu'elle soit la beauté vivante et la divine odeur du large. La jeune fille émerveillée, le poète adolescent, viendront, après les fêtes, au matin, dire sur mon tombeau mes strophes. Ils m'imagineront captif des ténèbres et de l'argile, mais mon âme agile, s'inclinera entre leurs têtes avec un geste aérien et double sur leur front pensif.
Et s'adressant au jeune homme,
« Sois la pure offrande innombrable, le partage entre toutes choses, la voix des mers, l'odeur des roses, l'amant des âmes inconnues, sois l'adolescence valte et nue sous son manteau, le compagnon suprême de Jésus traqué et qui échappe aux hommes d'armes et s'abolit dans l'air nocturne, sois tout, sauf la proie inutile, en otage aux soldats du monde. Sois de chair aux lèvres ardentes, mais fluide comme le vent. »
Robert Edward Hart est emporté par une thrombose le 6 novembre 1954, à l'âge de 63 ans. Il est mort seul, comme il avait toujours vécu. Il est inhumé au cimetière marin de Souillac. C'est un cimetière très ancien, aux tombes oubliées. Ce n'est pas un endroit tranquille où marchent les colombes. Il est battu par les vents et par une mer souvent démontée. L'âme du poète peut y planer, virevolter, se cabrer dans les rafales, quelquefois rêver sur la falaise, dans l'éblouissante clarté de la pleine lune tropicale. À sa mort, Malcolm de Chazal écrivait ceci.
« Est mort le prince des poètes de l'île Maurice. Dans ses vers, il ne cherchait que l'eurythmie. Dans sa vie, il inspirait la beauté du monde. Les monts l'on peut tenter, mais la mer a tissé pour lui jusqu'à son linceul. L'homme était fait de son et de musique. Les générations sentiront longtemps vibrer nos philaos au son de sa harpe, que la mort va maintenant mettre en branle. Car jamais le poète n'est plus vivant que quand il est mort. »
Nous laisserons le mot de la fin au poète lui-même.
D'autres vous lègueront, ô frères, leurs enfants, et les vastes espoirs des essors triomphants. Pour moi qui suis poète, le seul héritage que je vous laisserai, plus folle ou bien plus sage, ce sera presque rien, et peut-être un peu plus. Le témoignage en vers de mes jours révolus, quelques chants, quelques cris, des sanglots et des rires, la rumeur de ma vie et l'écho de ma voix, ce qui subsiste encore des anciennes lyres que le dernier silence exile en l'autre foi. Ce sera là pourtant le meilleur de moi-même. L'arbre donne son fruit, le rimeur son poème lorsqu'ils peuvent mourir, car leur rôle est rempli. Mais si l'arbre tombé s'abîme dans l'oubli, le poète demeure et son œuvre se mêle à l'immense trésor où l'âme universelle se cherche, se connaît, puise et se renouvelle. Créateur d'idéal, de pensée ou d'émoi, puisqu'il survit longtemps à son fragile moi, le poète est vraiment celui-là qui demeure. Si l'œuvre doit durer, qu'importe que l'on meure.